Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Grand Ciel. Bienvenue dans l'émission Un livre, un auteur. Pascal Lereste à l'antenne, ethnologue et directeur de collection chez l'éditeur parisien L'Harmattan, pour vous servir. Un livre, un auteur, une émission mensuelle d'une heure pour découvrir l'univers d'un auteur autour d'un de ses livres. S'immerger pas à pas dans les représentations vécues de celui qui écrit, dans le monde qu'il active, qu'il met en mots, en musique. Telle est mon intention. Et pourquoi ? Mon but, vous donner envie de rentrer dans l'objet livre, en comprenant mieux les ambitions de celui qui écrit, les centres d'intérêt qui président à la construction de son ouvrage. Un livre, un auteur, reçoit un invité par mois et se concentre principalement sur des auteurs publiés chez L'Harmattan, plus grand éditeur indépendant de France. Ces auteurs seront parfois euréliens, parfois américains ou coréens. Bref, ils viendront de partout. Ce seront parfois des auteurs que j'ai pu publier, mais pas toujours. L'éclectisme est le signe de l'émission et les genres proposés iront de l'essai au roman, du récit de vie à la poésie. Une émission mensuelle, comme un rendez-vous pour une rencontre, une belle surprise. Une heure par mois pour être touché, ému, ou réfléchir et se surprendre à vouloir lire quelque chose d'enfin différent, le livre d'un auteur. Et aujourd'hui, nous recevons sur Radio Grand Ciel Nabil Antaki pour le livre qu'il a coécrit avec Georges Sabé, Les lettres d'Alep, publié chez L'Harmattan en 2018. Bonjour Nabil Antaki.
Bonjour Pascal.
C'est un honneur que vous nous faites de venir aujourd'hui sur Radio Grand Ciel pour nous parler de ce livre et nous parler de la tragédie que vous avez traversée dans votre pays, la Syrie, aux côtés donc de toutes ces personnes qui ont souffert et peut-être en commençant, pouvez-vous nous rappeler un petit peu cet épisode de la guerre en Syrie.
D'accord. Il faudrait un peu situer la Syrie avant le début de la guerre en mars 2011. La Syrie était un pays très sûr, très stable et relativement prospère. Et surtout dans les 10 dernières années avant la guerre, les choses allaient nettement mieux. Il y avait davantage de démocratie qu'auparavant, davantage de respect des droits de l'homme, davantage de lutte contre la corruption, et donc les choses évoluaient dans le bon sens. Et puis, subitement, en mars 2011, il y a eu des manifestations antigouvernementales qui ont vite tourné à des affrontements armés. Au début, il y avait des démocrates qui étaient dans les manifestations, des gens qui voulaient vraiment avoir plus de démocratie, mais très rapidement, ce mouvement a été récupéré par des islamistes qui voulaient soit instaurer un régime islamique, soit avoir le chaos en Syrie. Et donc, la guerre a commencé en Syrie en mars 2011, et elle n'a atteint vraiment la ville d'Alep, là où j'habite, qu'en juillet 2012. Auparavant, pendant des mois, la guerre se rapprochait petit à petit vers la campagne autour d'Alep. Il y avait de temps en temps des incursions des rebelles armés dans la ville. Il y avait parfois des kidnappings, des voitures piégées. Mais vraiment, la guerre s'est installée à Alep en juillet 2012.
D'accord. Alors, Nabil, vous êtes médecin.
Oui, en effet, je suis médecin gastro-entérologue.
D'accord. Et donc, vous étiez à Alep et vous étiez donc en situation d'exercice à Alep quand cette tragédie s'est déroulée.
Exactement. Et en quelques mois après juillet 2012, il y a 70% des médecins d'Alep et 60% des médecins de Syrie qui ont quitté le pays. Donc, il y avait une pénurie très importante de médecins, de cadres infirmiers. Et donc, nous avons fait le choix, mon épouse et moi, de rester, de ne pas quitter la Syrie, et de rester pendant la guerre à Alep.
Alors, quand on lit votre livre, et c'est ce que j'ai fait, On est tout à fait impressionné par la force de cet engagement qui est le vôtre, dans un moment où, évidemment, quand on a les moyens de partir, quand on est un intellectuel ou un spécialiste comme Boulette, on a les moyens de partir, ben on s'en va parce qu'on pense à préserver sa vie, ses intérêts, etc. Et vous, non, non, vous, vous restez à Alep aux côtés des gens qui souffrent. Pourquoi ?
Ben justement, tout remonte à notre engagement, mon épouse et moi. D'abord, il faut dire que après le bac, j'ai fait la médecine à l'Université Saint-Joseph au Liban, puis j'ai été me spécialiser au Canada. Et donc, au bout de 6 ans de spécialisation au Canada, j'ai obtenu la citoyenneté canadienne. Donc, j'avais un deuxième passeport. Et donc, pour moi, quitter la Syrie était vraiment très facile. J'avais une autre citoyenneté, je pouvais pratiquer la médecine au Canada, donc je pouvais quitter. D'autant plus que nous avons 2 enfants qui vivent aux États-Unis. Et donc, nos enfants, nos parents nous suppliaient de quitter, vu le danger que nous vivions en Syrie. Mais voilà, mon épouse et moi, nous avons décidé de rester parce que nous pensons que nous avions une mission pour rester à Alep, celle de secourir et d'aider les gens qui ne peuvent pas quitter.
Et cette période était extrêmement difficile et puis dangereuse. Vous avez d'ailleurs perdu votre frère à Alep dans des conditions pénibles. Et donc c'était évidemment pour vous un danger de tous les instants, permanent.
Exactement. Il y avait un danger permanent parce que tous les jours pendant 5 ans, les obus tombaient sur Alep. Et donc, tous les jours, il y avait des dizaines de blessés et des tués. Et donc, personne n'était préservé. On pouvait mourir n'importe quand. D'autre part, la vie était très difficile. On est resté 2-3 ans sans électricité, sans eau, très souvent encerclé avec des blocus de la ville et donc des pénuries de produits essentiels. Mais malgré cela, nous avons dit que notre présence est très importante pour des milliers et des dizaines de milliers de gens qui sans nous n'auraient pas pu survivre. Et d'autre part, notre présence donnait de l'espoir aux gens. Très souvent, les gens m'arrêtaient pour me dire « Ah, docteur Antaki, vous êtes resté ? Si vous, qui pouvez quitter, vous êtes resté, c'est que nous aussi, nous allons rester. » Donc, notre présence était très importante pour les gens.
Donc, vous suivez l'évolution de Daesh ? En Syrie et vous avez une préoccupation aussi de la possibilité de l'intrusion de Daesh dans Alep. Comment on vit ça au quotidien et qu'est-ce que ça représente comme type de danger?
Ben justement, c'était le plus grand danger. Et d'ailleurs, moi, je répétais à mes amis qui me suppliaient de quitter, je disais, tant que Daesh n'est pas rentré à Alep, je reste. La seule possibilité où je pourrais quitter Alep, c'est si jamais Daesh prend Alep. Parce que vivre sous un régime islamique n'est pas vraiment des vacances. J'ai reçu maintenant, après la guerre, beaucoup de personnes qui vivaient à Raqqa ou à Manbij ou dans d'autres villes syriennes sous la coupe de Daesh. Et puis, ce qu'il me racontait, vraiment, était affreux. Donc, pour moi, vivre sous le danger des bombes et de la guerre n'était pas aussi important que vivre sous un régime islamique. Et à 2 reprises pendant la guerre, on était sur le point de tomber sous le contrôle de Daesh. Et à ces 2 épisodes-là, je me rappelle qu'on a fait notre petite valise, ma femme et moi, en portant les documents importants avec nous. Et puis on a même une fois organisé un départ massif des chrétiens d'Alep, si jamais Alep tombait sous la coupe de Daesh.
Alors voilà, vous parlez des chrétiens à Alep. Il faut dire pour nos auditeurs de Radio Grand Ciel que vous avez un engagement chrétien très fort. Et vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Exactement. La Syrie est une mosaïque d'ethnies et de religions. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a des druzes, il y a des chiites, il y a différentes confessions. Les chrétiens, dans le temps, représentaient 10%, 15% à certaines époques de la population. Maintenant, le nombre de chrétiens a baissé en pourcentage, nous représentons peut-être 5%. Mais les chrétiens de Syrie sont les chrétiens d'origine. La Syrie est le berceau du christianisme et tout chrétien qui est en Syrie est sûr d'être chrétien depuis 1700, 1800 ans au moins, parce que depuis l'entrée des musulmans en Syrie en 632, il fut interdit à quiconque de devenir chrétien. Donc tous les chrétiens de Syrie le sont depuis très longtemps. Et donc, mon engagement chrétien, c'est que je me pense pas que la foi est quelque chose qui se dit, est quelque chose qui se prie. La foi est quelque chose qui se vit. Et donc, pour moi, chrétien, je ne peux pas vivre ma foi si je ne suis pas engagé dans l'amour du prochain et dans la solidarité avec les plus démunis. Et donc, c'est ça qui était à la base de notre engagement, ma femme et moi, pour rester, aider les gens, parce qu'on les considère comme nos prochains, et qu'on n'a pas le droit de quitter notre prochain dans les difficultés, qu'il fallait être là, à ses côtés.
Alors, c'est une leçon de courage, et au fil des pages du livre, on en prend toute la mesure. D'autant que lorsqu'on est chrétien en Syrie à cette époque-là, avec Daesh et puis toutes les factions, le danger est permanent.
Exactement. Nous avons d'ailleurs la preuve de ce qu'ont commis les djihadistes dans certains villages chrétiens qu'ils ont envahis, où ils ont tué les gens, saccagé les lieux saints, les églises. Donc, déjà, leurs coreligionnaires qui ne partagent pas leur idéologie souffrent de Daesh. Donc, que dire des chrétiens ou des personnes d'autres confessions?
Et aujourd'hui, à Alep, maintenant que Daesh est presque éradiqué, qu'en est-il de la situation des chrétiens?
Maintenant qu'il n'y a plus la menace de Daesh, les chrétiens continuent à vivre normalement comme nous vivions depuis des siècles dans une coexistence très, très saine avec nos compatriotes musulmans, parce que qu'on soit chrétien ou musulman, nous nous considérons d'abord comme syriens et ensuite chrétiens, musulmans, etc. Et donc notre appartenance à la Syrie est primordiale, qu'on soit chrétien et musulman. Et donc maintenant, il n'y a aucun problème avec nos citoyens musulmans. Nous n'avons aucun problème, d'ailleurs, nous n'avions jamais eu. Je suis médecin, 90% des malades que je traite sont des musulmans. Nous avons, on en parlera plus tard, une association qui s'appelle les Maristes Bleus, qui est une association fondée par nous, des chrétiens, mais nous avons des bénévoles qui travaillent avec nous qui sont musulmans. Et d'ailleurs, 80% des bénéficiaires de notre aide sont aussi des musulmans. Donc nous n'avons aucun problème avec les musulmans. Le problème, c'est avec cette idéologie extrémiste, djihadiste, qui s'appelle l'État islamique.
Alors, on va parler, oui, des maristes, c'est important. Une petite question pour les auditeurs et pour moi-même. Y a-t-il une différence avec l'église syriaque? Est-ce que en Syrie, quand on est chrétien, on appartient à une église syriaque? Et si oui, qu'est-ce que cela recouvre? Et sinon, qu'en est-il?
En Syrie, il y a 11 églises différentes. Il y a
11 églises.
Deux églises protestantes. Oui. 3 églises orthodoxes et 6 églises catholiques. Alors, donc, l'église syriaque, il y a la syriaque catholique et la syriaque orthodoxe, mais syriaque veut dire que dans le temps, il y a un millénaire, les gens parlaient le syriaque, et donc ils ont continué à suivre la tradition syriaque. Il y a d'autres qui s'appellent les melkites, ils ont suivi la tradition byzantine, mais ils sont aussi catholiques. Donc, il y a 6 églises orientales catholiques, qui dépend de Rome, mais qui ont une liturgie et des rites qui sont propres à leur histoire, c'est-à-dire il y a les Melkites, les Arméniens, les Chaldéens, les Syriaques, qui sont tous catholiques, il y en a autant qui sont orthodoxes.
D'accord. Bon, c'est passionnant, ça donnerait lieu à de multiples émissions. Et alors, donc, parlez-nous de cette association des Maristes Bleus, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Alors, d'abord, pour situer un peu les choses, en 1986, avec mon épouse et un frère mariste qui s'appelle Georges Sabé, qui a coécrit le livre avec moi, Les Lettres d'Alep, c'est un religieux consacré, Donc en 1986, nous avons fondé ensemble une association que nous avons appelée l'Oreille de Dieu. C'est-à-dire que nous entendions les doléances des pauvres, les souffrances des malades, et puis nous tendions la main pour les secourir. Et donc pendant 26 ans, de 1986 à 2012, nous avions avec des dizaines et des dizaines de bénévoles qui changeaient au fil du temps, nous avons secouru les plus pauvres parmi les pauvres familles d'Alep. Puis quand la guerre a commencé en 2012, par un hasard, nous portions des t-shirts bleus et puis les déplacés que nous secourions disaient « Ah, les bleus sont arrivés », nous avons changé de nom pour nous appeler les Maristes Bleus. Maristes parce que nous partageons un peu les valeurs et le charisme et la spiritualité des frères Maristes, donc une congrégation religieuse, et bleus parce que les gens nous ont appelés les Bleus. Donc en 2012, nous avons créé les Maristes Bleus pour venir en aide aux déplacés. Et donc les Maristes Bleus créions des programmes et des projets au fur et à mesure que nous sentions qu'il y avait un besoin. Donc au début, c'était le besoin d'héberger, de donner à manger, à vêtir les déplacés qui ont fui. En quelques semaines, il y a 500 000 personnes d'Alep qui ont quitté leur quartier envahi par les rebelles et qui sont venues se réfugier dans Alep qui était sous le contrôle du gouvernement. 500 000 personnes. Ils sont installés dans les jardins publics, dans des écoles publiques. C'était l'été, les écoles étaient fermées. Ils ont pris possession de ces lieux-là, mais ils n'avaient rien. Ils avaient quitté leurs appartements en emportant que les habits qu'ils portaient. Et donc, il fallait les aider. Et c'est comme ça qu'on a créé les Maristes Bleus pour les déplacés, pour loger, nourrir, vêtir, soigner les déplacés. Puis, au fur et à mesure que la guerre avançait, on a constaté qu'il y avait un besoin d'aide médicale. On a créé les Maristes Bleus, le programme médical des Maristes Bleus. Puis, nous avons vu qu'il y avait des blessés de guerre qu'on emmenait à l'hôpital public et qui mouraient le temps d'être soignés parce qu'il ne restait plus que deux hôpitaux publics à Alep, les autres avaient été détruits ou incendiés par les rebelles. Et donc, on a créé un programme qui s'appelle les civils blessés de guerre pour amener tous les civils blessés par la guerre dans une clinique privée payante et on les soignait gratuitement. Les médecins et chirurgiens offraient leurs soins gratuitement et nous, on payait les frais. Et puis, Alep a été privé d'eau pendant 2 ans parce que les rebelles ont coupé l'approvisionnement en eau. Le temps que la municipalité forme 300 puits dans Alep pour avoir de l'eau, nous avons créé un projet qui s'appelait J'ai soif pour justement distribuer de l'eau dans de petites camionnettes dans les maisons et les appartements où habitaient nos familles déplacées. Et c'est ainsi que nous avons eu 6 projets de secours, 8 projets éducatifs, et nous continuons à créer des nouveaux projets au fur et à mesure que nous constatons qu'il y a un besoin.
Très bien, c'est tout à fait intéressant. Nous allons faire une pause musicale et nous retrouvons Nabil Antaki juste après.
Que
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Nabil Antaki, qui a coécrit avec Georges Sabé Les Lettres d'Alep, publié chez L'Harmattan en 2018. Et pour reprendre tout de suite un petit passage, donc page 46, Lettres d'Alep, numéro 7, 12 décembre 2012. Depuis notre dernière lettre du 26 octobre, la situation militaire sur le terrain n'a guère changé. Malgré les combats de rue, les bombardements, les voitures piégées, les snipers, les assassinats et les kidnappings, aucune des deux parties du conflit n'a pris le dessus à Alep. Par contre, la situation humanitaire est catastrophique. Tout manque. Le pain, l'eau, l'électricité, l'essence, le gaz et le fioul, pour ne citer que les besoins essentiels. Ces produits existent dans les autres villes syriennes au prix normal. Mais le ravitaillement d'Alep est impossible, toutes les routes qui vont d'Alep ou qui y mènent étant entre les mains des rebelles qui empêchent l'acheminement de ces produits. Et quand on peut se les procurer, c'est à un prix inabordable pour la plupart des gens. Le pain à 10 fois le prix, l'essence à 5 fois, le fioul pour le chauffage à 12 fois, le gaz pour la cuisine à 9 fois. Les Alépins ont froid, ont faim et sont désespérés. Nabil, vous avez traversé donc toutes ces années avec les Alépins qui souffraient, vous avez organisé, on peut dire, une forme de résistance et vous avez participé à des formes d'organisation sociale pour aider les gens les plus démunis. Où est-ce qu'on trouve toute cette force qui a été la vôtre ?
Ben justement, comme je vous le disais, notre force vient de notre foi. Nous pensons que nous ne pouvions pas abandonner nos prochains, que ce serait une lâcheté de quitter et que tant que les gens avaient besoin de nous, il fallait rester. Et ce que j'ai écrit dans cette fameuse lettre que vous venez de lire est vraiment est véridique. Pendant des années, on n'a pas pu se chauffer, le fioul n'existait pas. L'essence, les stations-service ont démonté leurs pompes. Il n'y avait plus de pompes. On allait dans une station-service, c'était juste un terrain plat. Et donc, on achetait l'essence dans des bouteilles d'eau minérale sur les bords des trottoirs vendus par des gamins. Juste pour vous dire un exemple, pendant des années, nous n'avons pas pu nous chauffer. Et pourtant, à Alep, en janvier, février, c'est du 2 degrés, 3 degrés, et donc il faisait assez froid. Moi, je me rappelle, pendant toutes ces années de guerre, quand je rentrais chez moi, j'enlevais ma veste, je mettais un deuxième pull au-dessus du mien, je mettais une robe de chambre, un bonnet sur la tête et des gants chez moi à la maison pour ne pas avoir froid. Et d'ailleurs, j'ai même eu un problème avec mes doigts qui ont gelé à cause du froid et que j'ai dû soigner. Donc vraiment, les gens ont subi des privations très importantes, une vie très très difficile, et tout cela parce que nous avons été encerclés. Il y a eu des blocus de multiples périodes, des blocus de 10 jours, de 12 jours, de 13 jours, où rien ne rentrait à Alep. Et même la principale route, l'autoroute qui menait d'Alep vers les autres villes syriennes a été prise par les rebelles dès le début de la guerre. Alors le gouvernement syrien a fait une petite route de campagne qu'il a sécurisée pour qu'on puisse acheminer le ravitaillement à Alep. Et même cette route-là n'était pas sûre. D'ailleurs, c'est sur cette route-là que mon frère aîné a été tué par les rebelles. Il était dans un bus civil. Alors, ils ont tiré sur le bus, ils ont tué mon frère. Et donc, il y avait des blocus et donc on manquait de tout.
Alors c'est une situation terrible, on l'entend quand vous l'évoquez. À certains moments, vous sortez du territoire syrien, donc vous avez une vision aussi de la manière dont l'Occident traite la question de la Syrie et d'Alep dans les médias. Et quelle est votre opinion sur cette couverture médiatique en Occident ?
Je le dis franchement, je pense que les médias ont été manipulés. Manipulés parce que quand on regarde tous les articles, les émissions, toutes avaient à 90% leurs informations de l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est une officine basée à Londres, tenue par des rebelles islamistes, qui, sous un très beau nom, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, diffusait l'information qu'elle voulait. Donc c'était toujours une information manipulée, dirigée pro-rebelle. Et quand vous regardez les dépêches d'agences, même l'AFP, les journaux, les télévisions, ils disaient toujours, selon l'OSDH, voilà, il y a eu ça, selon l'OSDH. Et nous qui vivions sur le terrain, on disait, mais c'est pas vrai, ils sont en train de mentir. Et ça nous révoltait. Il fallait voir la révolte des gens d'Alep quand ils voyaient à la télévision ou quand ils écoutaient des radios étrangères. Et quand ils voyaient ces mensonges-là, ils étaient révoltés. Ils disaient, mais nous sommes sur place, on voit la réalité autrement que ce qui est rapporté dans les journaux et les médias occidentaux.
Et donc ça a eu une conséquence sur l'évolution de la situation en Syrie.
Mais bien sûr, mais bien sûr. Et d'ailleurs, il ne faut pas se tromper. Quand l'Occident dit, voilà, nous avons appuyé la rébellion parce que le président en place est un dictateur et que nous voulons amener la démocratie et les droits de l'homme aux Syriens, je pense que tout ça, c'est de la foutaise. Parce que les présidents étrangers ne sont pas réveillés un beau jour, dire, ah voilà, pauvre peuple syrien, on veut qu'ils vivent dans de meilleures conditions. Il y a des raisons géopolitiques et d'autres qui ont vraiment induit à cette politique des pays occidentaux vis-à-vis de la Syrie. Le fait est que les Occidentaux pensaient que le régime syrien allait tomber en quelques semaines, comme ce fut le cas en Libye ou en Irak ou ailleurs. Or, dès le début, nous avons dit à nos amis occidentaux, le régime syrien ne tombera pas comme les autres. D'abord, il est fort et ensuite, il est assez populaire. Et même l'ambassadeur de France en Syrie au début des événements en 2011, qui s'appelle Éric Chevalier, avait fait des déclarations disant « Faites attention au Quai d'Orsay, le régime ne tombera pas. Ne pensez pas que les choses vont aller se passer comme ailleurs. » Et même cet ambassadeur a été traité par les médias français comme l'ambassadeur de Assad en France, parce qu'il disait la vérité. Et donc les journaux ont vraiment très mal informé. Nous avons parlé de désinformation. Ils ont désinformé leur public.
Mais ça veut dire que, par voie de conséquence, toute l'organisation de la politique française en Syrie est une politique qui était idéologique, qui était en fait contre les intérêts du peuple syrien.
Mais bien sûr. Il y a des raisons géopolitiques derrière tout cela. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une société de bienfaisance, les dirigeants politiques qui se réveillent pour dire « voilà, on veut le bonheur du peuple syrien ». Pour vous donner quelques exemples, dans les médias syriens occidentaux, en mai 2016, ils ont annoncé que le dernier hôpital d'Alep a été détruit. Or, nous vivons à Alep, le dernier hôpital n'avait pas été détruit. Il disait détruit par les forces gouvernementales, ce qui était faux. Puis, une semaine après, le dernier pédiatre à Alep, ça faisait la manchette de tous les journaux, a été tué. Ce qui n'était pas vrai, il restait quand même des dizaines de pédiatres encore à Alep. Puis, dans les médias, ils ont montré un jeune qui s'appelle Omran, qu'on sortait de sous les décombres, qu'on mettait dans une ambulance qui brillait par sa propreté, dire « voilà l'icône des enfants qui souffrent à cause du gouvernement syrien ». Or, ce Omran a joué le jeu et son père a annoncé maintenant qu'il a été obligé par les djihadistes de faire la comédie pour montrer, pour influer sur les réseaux sociaux. Et puis, il ne faut pas oublier la fameuse phrase de Fabius quand il était ministre des Affaires étrangères, quand il a parlé des islamistes en disant « ils ont fait du bon boulot ». Et puis, il faut pas oublier que quand l'État islamique a commencé à égorger les Occidentaux, tout le monde s'est soulevé. Mais il faut se dire qu'avant d'égorger le journaliste britannique ou japonais, etc., ils se sont fait la main sur les Syriens. Ils ont égorgé des centaines de Syriens. Personne n'en a parlé. Comme si les citoyens syriens étaient des personnes de deuxième catégorie et qu'on n'a le droit de se révolter que si un étranger est tué par l'État islamique.
Donc, enjeux occidentaux autour des intérêts liés au pétrole?
Ben voilà, il y a plusieurs hypothèses. Certains ont parlé du pétrole, d'autres ont parlé que les pays européens font du suivisme avec la politique des États-Unis, parce que depuis 2002, les États-Unis ont une doctrine, c'est créer un nouveau Moyen-Orient, le chaos constructif de Condoleezza Rice, etc. Et donc, ils ont commencé par l'Irak. Alors, vous vous rappelez la farce de l'Irak avec Paul qui a la fiole où il y a les armes de destruction massive alors que c'était une comédie. Et il faut se rappeler que l'invasion de l'Irak est survenue après les attentats du 11 septembre, alors que l'Irak était tout à fait innocent du 11 septembre. L'important c'est qu'on voulait abattre Saddam, puis on voulait abattre Kadhafi, puis on voulait abattre Assad. Donc, ce n'est pas une affaire de droits de l'homme. Dans tous les cas, si on veut discuter des droits de l'homme, bien sûr, les droits de l'homme ne sont pas parfaits en Syrie. Ils ont été bafoués dans le passé et peut-être continuent à l'être maintenant. Mais les pays occidentaux qui ont alimenté cette guerre-là ne sont pas pour autant des exemples parfaits de droits de l'homme. Il suffit de penser aux États-Unis avec tous les prisonniers qui sont restés à Guantanamo pendant des années sans avoir accès ni à un avocat ni à un procès. Alors, ça, ce n'est pas un respect des droits de l'homme.
Alors, avec ce que vous nous dites, c'est un renversement total des représentations que nous avons, nous, ici. Parce qu'en fait, par voie de conséquence, vous signifiez que, finalement, la politique de Vladimir Poutine est une politique qui a tendu à maintenir les équilibres en Syrie.
Oui, peut-être. Dans tous les cas, Vladimir Poutine est comme tous les autres dirigeants. Il regarde son intérêt. Il n'a pas à cœur l'intérêt du peuple syrien. Mais lui, du point de vue géostratégique, il a trouvé que pour contrebalancer l'hégémonie américaine dans le monde, qu'il serait bon qu'il ait de l'influence au Moyen-Orient et donc à commencer par la Syrie. Donc, Poutine aussi regarde les intérêts de la Russie. Et bon, les intérêts de la Russie ont coïncidé avec les intérêts de la Syrie.
D'accord. Et donc alors, pour l'avenir, la Syrie avec Bachar el-Assad ou non? Car ici, ça a toujours été un sujet de discussion.
Ben moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. D'abord, concernant les Occidentaux, puisque vous prétendez que vous avez appuyé la rébellion pour davantage de démocratie. Donc, imposer un changement de régime, ce n'est pas démocrate. Laissez aux Syriens le soin de décider eux-mêmes du régime et de leur président. Et donc voilà, moi je pense que s'il y avait des négociations de paix entre Syriens, les choses avanceraient beaucoup plus que quand il y a les maîtres des Syriens de l'étranger qui leur donnent des leçons, que ce soit Poutine avec Assad ou que ce soit les pays occidentaux et la Turquie et le Qatar et l'Arabie Saoudite avec la rébellion. Je voudrais ajouter aussi que les deux premiers pays qui ont soutenu la rébellion, hein, qui, en principe, combattaient pour davantage de liberté et de démocratie, c'était le Qatar et l'Arabie Saoudite. Et si vous pensez que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont des modèles de démocratie, alors je vous donne raison. Mais quand on pense que ces gens-là, ces pays-là, n'ont ni constitution, ni droit de l'homme, ni droit de la femme, ni rien du tout, alors s'ils aiment tellement la démocratie, ils n'avaient que commencer à l'appliquer chez eux. Et donc, quand ils appuyaient la rébellion, c'était pour avoir un régime islamiste wahhabite, comme c'est le cas en Arabie Saoudite.
Tout à fait intéressant. Nous allons faire une pause et nous nous retrouvons juste après.
طلو لقيت بيت إلو نط حي ومن في رك إخلت حي دلعونا
إمار المريو تخلونا للو يا بيت قو صالو دات خلنو على
إتقام سمرو موش يمتا قيفو أتو ألو أن سبران تخلونا
فاسخ من فاحو توقلت هاليلو يوم مملود أسري قوتو
فصولا مرا من كله فحوا بشون خولا دصيلت بورا
فاسغ وتحت كن فوت استاتر هاليلو يا زين الناحد رق بشتي
نطال المر يوب حيلي بصليبو وتحت كن فوت كل شو ساتر لا
لو تتحل من دي حل تدلي ليو هاليلو يومين جيروت فرح بمومو
هبلان لو تتحل من دي حل تدلي ليو قفلو من جيرو يقديد صوتونو
من ملثو دم هالخبح يشوفو هاليلو يا من روح تشاي ضب طهرو
من ملح بحشو بشو نطلا من روح تشيد الطهرو شو زبلا
يفلون من سترو خلفي هالي.
Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lereste qui anime l'émission Un livre, un auteur. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nabil Antaki qui a coécrit Les lettres d'Alep publiées chez L'Harmattan. Un autre passage, page 116. Note de Nabil Antaki, 12 mai 2014. Alep sans eau pour la 7e journée consécutive et personne en Occident ne proteste ou fait pression sur ceux qui ont intentionnellement coupé l'eau. À cette occasion, on ne peut s'empêcher de penser à cette phrase de l'un de nos congénères les plus éclairés. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Albert Einstein. Donc, ça nous permet de relancer les questions que vous évoquiez tout à l'heure, Nabil Antaki, sur la question géopolitique actuelle. Mais je voudrais qu'on revienne sur un autre aspect, car pour moi qui suis ethnologue, la Syrie, l'Irak, c'est le berceau de l'humanité avec les cultures, avec la culture sumérienne, avec Sumer. Ce sont les premières villes au monde, c'est la première écriture, c'est la civilisation. Et pour moi, donc en tant qu'ethnologue, à voir ce qui s'est passé anciennement avec l'Irak et actuellement avec la Syrie, c'est quelque chose d'insensé avec un chaos qui nous contraignent à réfléchir sur nos principes et nos valeurs humaines. Qu'en pensez-vous ?
Comme vous l'avez dit, la Syrie est le berceau de l'humanité. Damas est la capitale la plus ancienne encore habitée dans le monde. Et Alep est la plus ancienne ville toujours habitée dans le monde. Et le premier alphabet a été inventé à Ugarit, qui est une ville sur le littoral syrien. Et quand on pense à toutes les civilisations qui ont passé par la Syrie, qu'elles soient sumériennes, acadiennes, romaines, byzantines, les croisades, la civilisation islamique, etc., vraiment la Syrie est le pays le plus riche en traditions et en vestiges archéologiques. Il ne faut pas oublier que la Syrie est le pays... le berceau du christianisme, parce que à l'époque du Christ, la Palestine faisait partie de la Syrie et Antioche était la capitale de la province romaine de Syrie. Donc c'est un pays multimillénaire qui a une très longue histoire, qui a su s'adapter à toutes les invasions, qui a vécu paisiblement. Nous n'avons jamais attaqué qui que ce soit. C'est un peuple très pacifique, la Syrie, et puis voir ce qui est arrivé en Syrie, voir le vol des antiquités et du patrimoine qui a eu lieu pendant la guerre, toutes ces pièces qui ont pris le chemin de l'étranger via la Turquie, est quelque chose de très grave.
Et alors l'avenir en Syrie, comment le voyez-vous ?
Maintenant, on va parler encore politique. C'est que depuis quelques mois, la situation est gelée en Syrie. Le gouvernement syrien a pris le contrôle de 70% du territoire et les rebelles ont été mis dans une province qui s'appelle Idlib. Et donc, le gouvernement syrien, il y a 2 mois, s'apprêtait à lancer une offensive pour libérer Idlib. Et puis, il y a eu des accords entre la Russie, la Turquie, l'Iran et les pays occidentaux pour geler la situation. Donc on a maintenant une province où il y a tous les rebelles, tous les islamistes, dont 20 à 30 000 islamistes étrangers qui sont là à Idlib. La situation est gelée. D'autre part, nous avons des troupes américaines qui soutiennent des forces kurdes au nord-est de la Syrie à la frontière avec l'Irak. Et nous avons l'armée turque qui a envahi le nord-ouest de la Syrie pour chasser les Kurdes. Parce que les Turcs n'aiment pas les Kurdes. Et donc maintenant, nous avons trois problèmes très importants qui sont gelés et donc qui sont autant d'obstacles à l'instauration de la paix. Alors, c'est un statu quo. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de guerre maintenant depuis 3 mois, mais il n'y a pas non plus de perspective de paix dans un avenir proche. Et c'est ce qui empêche le retour de beaucoup de déplacés et de réfugiés syriens. Il y a beaucoup qui rentrent au pays pour voir leur appartement, pour arranger leurs affaires, mais ils viennent momentanément et puis ils retournent dans les pays d'hébergement parce qu'ils se disent, tant qu'il n'y a pas d'accord de paix, on ne sait pas quand ça va de nouveau exploser. Et donc l'avenir est très incertain. Il faudra trouver une solution pour Idlib et les Occidentaux n'en veulent pas. Votre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé il y a 2 mois qu'il faut absolument geler la situation à Idlib parce que s'il y a offensive de l'armée syrienne, les djihadistes étrangers vont quitter Idlib. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire chez nous? Donc, il vaut mieux les garder chez vous, les parquer chez vous. Vous voyez ce genre de cynisme des dirigeants occidentaux. Alors, voilà, malheureusement, les choses ne sont pas réglées. Notre livre, Les Lettres d'Alep, nous avons commencé à écrire la première lettre en juillet 2012, quand la guerre a commencé à Alep. Notre dernière lettre dans ce livre date de septembre 2017, quand les choses ont commencé vraiment à aller bien. Mais depuis, nous avons écrit d'autres lettres, parce que ces lettres, nous les écrivions chaque 3 mois d'une façon régulière pour informer nos amis de l'étranger sur ce que nous faisions, sur la situation. Et là, nous sommes rendus à la lettre 34, alors que le livre s'achève avec la lettre 31. Donc, il y a encore du pain sur la planche.
Et votre association, donc les Maristes Bleus, continue à intervenir sur Alep ?
Oui, exactement, exactement. Et comme je vous ai dit, dès qu'on sent qu'il y a un besoin, on crée un projet. Le dernier projet qu'on a créé, c'est un projet d'aide aux déplacés kurdes. Quand l'armée turque a envahi le pays kurde, du nord-ouest de la Syrie en janvier, fin janvier, début février 2018, il y a 140 000 Kurdes qui ont pris la fuite et sont venus s'installer dans des camps de fortune à 25 km d'Alep. Alors, nous n'avions pas, nous, mission à aider les Kurdes. Déjà, nous avions assez à faire avec les Alépins, mais nous nous sommes dit, non, ces gens-là sont maintenant ceux qui ont le plus besoin de nous. Nous avons créé un projet où nous allons 2 fois par semaine, les mercredis et le dimanche, avec nos bénévoles dans des bus pour aller secourir les déplacés kurdes, que ce soit en nourriture, en vêtements, en hébergement, en éducation des enfants, parce que nous pensons que l'éducation des jeunes est très importante. C'est pour cela que nous avons environ 4 projets éducatifs où nous prenons en charge les enfants de 3 à 7 ans, puis les adolescents, puis les adultes. Parce que nous pensons que si on veut vraiment reconstruire le pays, il faut reconstruire l'humain. Il y a tellement de générations qui ne sont pas scolarisées que l'avenir de la Syrie, même en temps de paix, va être incertain parce que des générations d'illettrés ne forment pas l'avenir. Et toute personne qui n'a pas été à l'école peut être une bombe à retardement pour nous parce qu'elle peut être influencée par divers courants extrémistes. Donc nous insistons beaucoup sur l'éducation des enfants, nous créons des projets pour éduquer les enfants, pour les scolariser, pour les encourager à aller à l'école, et nous faisons le reste, nous, par l'éducation et l'instruction.
De beaux projets. Nous faisons une courte pause et nous nous retrouvons dans un instant. Thank you. Vous êtes toujours sur Radio Grand Ciel dans l'émission Un livre, un auteur, et nous en arrivons maintenant à la rubrique du mois, les livres, les 5 livres de ce mois-ci. Alors, une auteure, Roberta Rubino, qui est donc une jeune femme diplômée de l'Institut des études politiques de Naples et qui est également titulaire d'un doctorat d'ethnologie obtenu à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris en 2013 et que j'ai eu le plaisir de publier dans ma collection ethnographique, donc pour un ouvrage qui s'intitule « La production du coton biologique et équitable au Mali » avec pour sous-titre « Au-delà du don et du marché ». Donc une très belle étude sur l'arrière-cour des questions donc écologiques dans les pays en voie de développement, et où donc Roberta Rubino nous amène comme dans un roman policier à la découverte de tractations assez étonnantes. Donc je rappelle ce titre, La production du coton biologique et équitable au Mali, par Roberta Rubino. Toujours par Roberta Rubino, dans les engrenages d'une ONG internationale de développement, gouverner les ingouvernables. Toujours dans la collection ethnographique. Donc Roberta continue donc son enquête au Mali en suivant à la trace donc une ONG très particulière que je ne citerai pas là à l'antenne, où elle montre en fait les mécanismes de l'organisation du travail et des outils qui permettent en fait de mettre en œuvre toute une politique d'une ONG donc dans un pays en voie de développement. Et puis toujours de Roberta, un troisième livre, Outils de recherche, étude du projet coton bioéquitable du Mali. Là, il s'agit d'un livre plus technique, je dirais plutôt pour des sociologues, des ethnologues qui cherchent en fait à fabriquer des méthodologies d'action opérationnelle sur le terrain de la recherche. Donc, Outils de recherche, par Roberta Rubino, avec une préface de Tahar Bouya, qui est docteur en sociologie. Et puis deux autres livres, d'Ahmed Atmani, qui a écrit donc La relation mère-enfant en milieu traditionnel algérien, en deux tomes, le tome 1, Ethnopsychologie, et le tome 2, Psychopathologie. Ahmed Atmani est docteur en psychologie et en fait il a retravaillé sur sa thèse de doctorat pour nous parler en fait de ces relations très spécifiques donc de la mère et de l'enfant en milieu traditionnel algérien. Je n'en dis pas plus car j'ai invité donc Ahmed pour une émission donc pour un livre un auteur une prochaine émission donc à Radio Grand Ciel. Nous avons fini la rubrique du mois et nous faisons une pause musicale. Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel avec Pascal Lereste pour un livre, un auteur qui reçoit aujourd'hui Nabil Antaki qui a coécrit avec Georges Chabé les lettres d'Alep. Mais Nabil, première question, pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Mais justement, ce livre n'a pas été écrit a posteriori. Quand la guerre a commencé à Alep, nous avions une amie très chère en France qui s'appelle Françoise Parmentier, qui nous a dit « Vous avez sûrement besoin d'argent, je vais demander à des amis de faire une collecte d'argent pour vous, mais écrivez-nous une lettre parlant de la situation. » Et donc nous avons écrit la première lettre d'Alep, puis elle a réclamé une deuxième et puis une troisième. Et donc, c'est comme ça que nous avons commencé à écrire au fur et à mesure du temps les lettres d'Alep. Donc, on a commencé par la numéro 1, nous sommes rendus maintenant à la numéro 34. Et ces lettres-là sont écrites alternativement par moi-même et par mon co-auteur et qui est le co-leader des Maristes Bleus, qui s'appelle le frère Georges Sabé. Et donc, c'est vraiment des témoignages. Ces lettres sont des témoignages qui ont été écrits sur le vif par deux témoins qui ont vécu la guerre. On n'a pas écrit ça 5 années après le début de la guerre avec les souvenirs. On les a écrits pendant qu'on vivait la guerre. Et donc, chaque lettre avait 3 parties. D'abord, décrire un peu la situation de ce qui se passe en Syrie, la situation à Alep, et ensuite la réponse que nous apportons, nous, les Maristes Bleus, au drame et aux souffrances des gens. Donc, c'est comme ça que ces lettres ont été écrites, et c'est une collection de lettres écrites sur le vif.
Et vous avez défié la mort en même temps que vous écriviez, parce que étiez-vous sûr de survivre à ce projet d'écriture ?
Non, et nous n'avions même pas l'intention de publier les livres. C'est que ce n'est qu'en 2016 que des amis nous ont dit « Mais écoutez, ces lettres-là qui ont été diffusées partout dans le monde, en une semaine après la publication de notre lettre en français, il y avait des amis qui traduisaient nos lettres en allemand, en espagnol, en italien et en portugais. Les lettres existaient en 5 langues une semaine après la diffusion de chaque lettre. » Et c'était juste pour informer nos amis, et les amis envoyaient la lettre à des amis, ainsi de suite, ce qui fait que chaque lettre était lue par des dizaines de milliers de personnes. Et puis les amis nous ont dit, il faut absolument apporter votre témoignage à cette guerre-là, et apporter aussi la réponse de ce que peuvent faire des personnes face à des drames comme ceux que vous avez vécu. Et donc nous avons décidé de publier les lettres d'Alep.
Vous avez une autre façon de porter aussi les préoccupations du peuple syrien et en particulier des citadins d'Alep, c'est de parcourir le monde pour faire connaître la situation, pour faire des levées de fonds aussi, je crois bien.
Oui, en effet, c'est plutôt des invitations que j'ai reçues, parfois de journalistes, parfois d'associations, des ONG européennes, parfois canadiennes ou américaines, pour dire, ben, venez nous parler un peu de la situation, on fera une levée de fonds. Nous allons organiser un concert en votre faveur, mais venez parler un peu de ce que vous faites. Nous allons organiser un ballet. Il y a 2 ans, des amis à Lausanne ont organisé une séance de ballet de Béjar, la troupe de Béjar. Et ça a été une levée de fonds vraiment très importante. Rien qu'en une soirée, 2 heures de temps, ils ont levé pas mal de fonds pour nous aider dans nos projets. Donc, une fois l'an, je fais un tour en Europe pour participer à une émission radiophonique comme celle-là, ou pour parler dans une église, ou pour parler devant un auditoire ou une table ronde, ou participer à un concert, pour justement d'abord informer les gens. Nous pensons qu'il est très important d'informer les gens de ce qui se passe, informer les gens de ce que nous essayons de faire pour aider les gens à vivre, et puis ensuite pour avoir des fonds. Parce que tout ce que nous faisons coûte beaucoup d'argent. Nous sommes soutenus par de nombreuses associations, certaines françaises, comme l'œuvre d'Orient, les Baroudeurs de l'Espoir, Solidarité Chrétienne d'Orient, c'est des ONG françaises qui nous aident. Il y a aussi des associations allemandes ou italiennes, canadiennes qui nous aident. Mais tout cela n'est pas suffisant. Les dons de particuliers qui nous font un don de 50 euros, 200 euros, qui nous ont soutenus pendant les premières années de la guerre.
Très bien. Donc, vraiment, j'insiste auprès des auditeurs. C'est un livre à lire. Lisez ce livre, Les Lettres d'Alep de Nabil Antaki et Georges Chabé. C'est un livre important. C'est un livre qui montre l'envers du décor, qui nous montre autre chose que ce que les médias occidentaux ont pu nous dire. Et c'est aussi un témoignage de la douleur telle que vécue par les habitants. Mais c'est aussi un message d'espoir, je trouve, sur comment comment les uns avec les autres, on peut organiser aussi des manières de s'entraider et de dépasser les épreuves. C'est ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ces lettres, Nabil, la manière que vous avez d'inventer au quotidien des manières de dépasser les difficultés.
Ben justement, au début de la guerre, nous avons pris comme devise, nous sommes une équipe de 10 avec 80 bénévoles. Donc, avec l'équipe, on a dit, on va créer notre slogan, notre devise. Et puis, nous avons trouvvé la phrase suivante que nous, à laquelle nous croyons et que nous vivons. Nous vivons la solidarité avec les plus défavorisés pour soulager les souffrances, développer l'humain et semer l'espérance. Et chaque année, on fait une pause pour dire, est-ce que cette devise est toujours d'actualité, il faut la changer. Et à chaque année, on se dit, non, elle résume tout à fait les choix que nous avons faits. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est semer l'espérance. Finalement, tout ce que nous faisons, c'est, il faut semer l'espérance chez les gens parce que les gens étaient désespérés en vivant cette guerre atroce qui a fait 400 000 morts, 5 millions de réfugiés dans les pays voisins, 8 millions de déplacés internes qui n'habitent plus chez elles. Il n'y a pas une famille qui n'ait perdu une personne chère, un ami, un voisin, quelqu'un. Et donc, tout le monde a été atteint par cette guerre-là et tout le monde a été désespéré. Et donc, notre rôle, à part aider les gens à survivre, c'est vraiment semer l'espérance, leur dire, ben, tout n'est pas perdu. On va recommencer, on va revivre ensemble. Il y aura un jour de la paix, mais il faut garder espoir.
Je vous remercie beaucoup, Nabil Antaki, d'être venu sur Radio Grand Ciel pour nous parler de la situation telle que vous l'avez vécue à Alep, nous parler de votre association qui a permis à des centaines de personnes de survivre, à des milliers de personnes de conserver de l'espoir. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cet effort de venir jusqu'à nous et je redis à tous et à toutes l'importance donc de lire les lettres d'Alep par Nabil Antaki et Georges Sabé. Au revoir, Nabil.
Au revoir Pascal et merci.